Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comic Speak, le podcast qui sélectionne pour vous une des meilleures sorties récentes de comics parmi les publications françaises. Et on retrouve encore une fois l'équipe de rêve, l'équipe de choc avec Balmung. Salut Balmung.
Salut Nightwing, salut les auditeurs, ça fait un bail.
Alors ça fait un bail, oui, parce qu'on est plutôt en retard. Vous avez dû le voir parmi les publications en ce moment, c'est un peu le bordel. Et puis l'équipe là n'est pas complète puisqu'on a également Nightwing. Salut Nightwing.
Salut Baptiste, salut Balmung et rebonjour à tous. Ça fait longtemps et ça fait plaisir de revenir. Et cette fois pour parler bon comics.
Et cette fois pour parler également bon comics, quoique la dernière fois, on s'était quand même arrêté sur des bonnes suggestions quand même la dernière fois. Donc là, ouais, on assume un petit retard qui est visible, mais on a de toute façon préféré s'arrêter à des émissions qu'on pourrait assurer plutôt que des émissions qu'on aurait bâclées. Et pour ça, on revient aujourd'hui pour vous parler de The Defenders, un deluxe qui sort et qui regroupe deux mini-séries d'une même équipe, qui est Ali Wing et Javier Rodriguez. Si on a déjà pu parler de Javier Rodriguez durant l'émission qu'on a pu faire sur le run de Mark Waid sur Daredevil, eh bien en fait ici on va vraiment voir Javier Rodriguez à un tout autre niveau. On va en parler. Alors pour commencer, Ali Wing, c'est quelqu'un dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il y a son run sur Immortal Hulk qui fait encore beaucoup de bruit et je vois encore pas mal de personnes qui lisent assez souvent du comics, qui n'ont pas encore lu pour autant, mais qui en entendent régulièrement parler parce que chaque lecteur qui rencontre Immortal Hulk est un lecteur converti qui va propager la bonne parole. Et donc, au-delà de ça,
qui est quand même un titre qui a, enfin, on peut prendre deux secondes, mais vu qu'en fait on l'a jamais présenté, oui, mais qui est un titre qui a quand même la particularité d'être un hommage à toute la série Hulk depuis ses débuts, tout en mettant tout ça en relation et donnant une cohérence au titre, tout en créant par-dessus, en plus avec un petit côté au tout début de la série qui est très Lovecraftien, il a vraiment su recréer toute la mythologie, tout en respectant tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et c'est un truc que Ali Wing adore faire, et qu'on l'a dans d'autres séries. Je te laisse continuer, Baptiste.
Mais alors, non, mais c'est très bien que t'interviennes là-dessus, parce que c'est vrai que on va partir tout de suite sur l'une de ses grosses qualités en tant que scénariste, c'est que c'est quelqu'un qui est un véritable historien du comics, de la continuité et de la chronologie, et en fait, il va pouvoir récupérer toute cette matière passée pour en faire quelque chose de nouveau. Et il va faire énormément de références à de grands runs, de grands arcs, mais ce qu'il va faire, ce qu'il va produire, ça va être pour autant très facile d'accès pour de nouveaux lecteurs. Il va rendre des choses très complexes, des quantités d'informations assez importantes, très 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 faciles à comprendre. C'est également quelque chose qui va pouvoir lui jouer des tours, on en parlera par la suite en revoyant un petit peu tout ce qu'il a pu créer. Alors, Ali Wing, c'est à l'origine un Britannique qui va travailler pour 2000 AD, étrangement. Il va faire quelques petites histoires dans le magazine, puis évidemment, il va passer sur la star du titre avec Judge Dredd, et il va arriver peu à peu chez aux États-Unis avec d'abord des petites histoires chez DC avec Ghost, puis du Dynamite, du IDW, plein de titres indépendants très 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 obscurs, jusqu'à un moment précis où il va chez Dynamite faire un run assez long de 2 ans sur Jennifer Blood, mais qui va lui permettre d'accéder à produire des comics chez Marvel. Et là, il va commencer à signer quelque chose qui s'appelle Mighty Avengers, qui était un titre pas forcément respecté à l'époque. C'était considéré comme le sous-Avengers, parce qu'on avait également Greg Land au dessin, et à côté de ça, on avait la grande période de Hickman, donc il faisait un peu pâle figure. Néanmoins, malgré cette situation, il va quand même se forger, dès là, ce petit run, qui a duré 2 ans aussi, il va se forger une petite communauté de fans, parce qu'ils vont voir dans cette écriture, dans ces histoires qui sont racontées, quand même un certain talent. On n'est pas encore là dans ses grandes œuvres. Donc là, il va commencer à se faire connaître. Il va poursuivre Mighty Avengers avec Captain America and the Mighty Avengers. Il va continuer chez Marvel avec Loki, Agent of Asgard, un run qui est assez court aussi, mais qui connaît également un petit succès. Donc il va rapidement devenir un nom qu'on va commencer à suivre avec Loki, puis ensuite les New Avengers avec c'était pas Ryan Stegman, c'était Rafa Sandoval. Et là,
je précise juste quand même que son Loki, alors il plaît beaucoup à la gente féminine, et je pense que c'est le run qui a confirmé le relooking définitif, enfin définitif, le relooking qu'on connaît actuellement de Loki. Alors je sais pas s'il a d'abord commencé à apparaître avec ça, mais je suis persuadé que c'est avec cette série que ça s'est confirmé qu'il allait ressembler à ça par la suite, quoi.
Alors que ça a commencé, je suis pas certain non plus, mais confirmé, c'est clair. Agent of Asgard, c'était une série qui a profité d'une popularité grandissante de Loki à ce moment-là, avec le run de Kieron Gillen 2-3 ans auparavant. Et donc, Alley Wing, à ce moment-là, il a une petite communauté, et là, c'est vraiment avec The Ultimates 1 et 2 qu'il va vraiment marquer les esprits. En fait, The Ultimates, c'est une série dont on aimerait beaucoup parler, parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez lu ici...
Je me rappelle plus... Je pense.
Non, franchement. J'ai pas eu l'occasion.
Alors, si jamais tu l'as pas lu, ça devrait te revenir assez vite. En gros, on a Blue Marvel qui gère une équipe et dont le projet est de résoudre les problèmes cosmiques assez importants de l'univers Marvel. Par exemple, le truc qu'on retient le plus souvent, c'est que va y avoir un arc qui consiste à trouver une source d'énergie qu'on peut générer va rassasier Galactus.
Vaguement, ouais, mais c'était pas une série qui avait fait suite à une série aussi de l'univers Ultimate, ou je sais plus. Oula, genre, bref, j'ai dû.
Alors, je dois fumer. Pas du tout.
Bon, bref. Parce que c'est peut-être parce que le personnage de. Non, mais cas, c'est pas un personnage qui vient d'un autre univers, je sais plus, au tout début. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est peut-être pour ça.
Blue Marvel, oui.
Le personnage,
oui.
J'avais déjà vu auparavant. Alors, cette série.
Ouais. Alors, du coup, on a eu ça. Il va également travailler un petit peu sur la tentative de relance des Inhumains, mais qui fonctionnera pas véritablement. Et là, il va toucher à la série Avengers après Mark Waid, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il va faire Defenders, The Best Defense. Et ensuite toucher à Immortal Hulk, et là vraiment c'est ça qui va lui permettre de se faire totalement connaître de tout lecteur de comics qui lise du Marvel
voilà.
Parce que j'allais dire je pensais aux différents profils, je voulais vexer personne. Et donc par la suite il va faire Les Gardiens des Galaxies, que je trouve très très cool aussi, la mini-série Ant-Man dont on a déjà parlé, depuis en fait il a également fait une mini-série avec le même concept que Fourmiversaire avec la guêpe, et actuellement il travaille sur la série Thor, The Immortal Thor, et il a fait une mini-série Avengers Inc. dont j'ai pas entendu beaucoup parler, mais qui est très très cool. Et donc je parlais d'un point faible chez... Oui, vas-y.
Mais du coup, quand on va parler du titre qu'on va présenter aujourd'hui, on va pouvoir faire un rapport avec Thor, c'est vrai. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais en fait, oui, ça paraît évident maintenant.
Alors, n'ayant pas lu The Immortal Thor, je peux pas tout de suite faire le rapprochement, mais si c'est en rapport avec la fin de la seconde série, ça va être très très bien.
C'est pas la fin de la série, c'est plus le côté méta du titre. On y reviendra.
Alors, et donc le point faible de Alley Wing, à mon humble avis, c'est ce qu'il fait sur Venom. En fait, il travaille sur Venom avec Ram V, et c'est une série qui continue encore, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde a tendance un petit peu à oublier. Et c'est un peu à la fois dommage, et en même temps, c'est quelque chose qui révèle beaucoup de choses sur ce qui pourrait ne pas aller avec Alley Wing. Au départ, cette reprise de Venom, elle fait suite à Donny Cates, et en fait, bah évidemment, le ton est complètement différent. Alley Wing et Ram V vont reprendre la situation finale de l'univers de Venom, mais ils vont faire surtout une sorte d'odyssée spatiale, l'histoire de Venom, avec différents Venom qui représentent plusieurs personnalités du symbiote. Le souci, c'est qu'en fait, Ewing va tenter de présenter un univers étendu et spatial du symbiote qui a été un petit peu égrené à travers son histoire. Et là, en fait, c'est beaucoup d'informations que même des lecteurs, on va dire, aguerris, ont du mal à ils ont du mal à se souvenir de tous ces détails-là.
Ou des lecteurs de Venom. Pardon, ça c'était...
Oui, non mais...
Là, par contre, c'était pour être méchant.
Mais non, mais... Mais en fait, pour avoir relu pas mal de séries Venom des années 90, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'histoires cosmiques de Venom. Donc c'est vrai qu'il y a un passif cosmique chez Venom qui est très important. Mais par rapport à ce que fait Ramvi et surtout Ali Wing là-dedans, on sent qu'il y a une grande connaissance passionnante autour du personnage et qu'il veut remettre en avant des choses assez peu connues. C'est vraiment tout à son honneur. L'histoire dans le sens qu'elle veut trouver est super intéressante, mais c'est beaucoup trop d'informations. Et ça, c'est le risque de Ali Wing, c'est qu'il nous bourre d'informations à un point où en fait on sature et on ne sait pas vraiment quoi en faire. On a du mal à se souvenir de tout ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Donc voilà pour.
Ouais, c'est trop d'informations ou c'est vraiment juste que bah c'est des références à beaucoup trop de choses qui ont été soit très vite oubliées, soit passées ouais vite.
Alors,
à la trappe.
Ça... C'est un peu les deux, c'est juste que ce que j'essaie de comprendre du coup de ce que tu me dis, c'est que c'est pas un Grant Morrison, tu vois, il fait pas référence à quelque chose, il te dit voilà, je sais, je maîtrise, et la référence je ne te l'explique pas. Ali Wing, il est vraiment dans une perspective limite pédagogique de t'apprendre plein de choses sur cet univers en développant un peu plus. Et en gros, il reprend une idée et il ajoute une plus-value en te le réintroduisant. Donc là-dessus, il y a pas de souci sur la démarche, tu vois. C'est pas juste, j'ai pas la référence, je ne suis pas capable de comprendre. C'est vraiment là, tu me montres trop de choses. Ok, lui c'est tel personnage, mais du coup lui il présente quoi? Et alors ça, en plus de la lecture de Ramvi qui est un peu plus métaphorique et spirituelle, là c'est une saturation j'ai trouvé de ce côté-là. Mais ça n'empêche que c'est un comics que je trouvais très intéressant.
Alors que ça a coupé avec un Donny Cates qui lui a plus l'habitude de ramener ses grosses pattes dégueulasses dans une série, dire écoutez, j'en ai rien à branler de ce que t'as fait avant, je fais ce que je veux.
Mais alors à contrario, le Donny Cates est beaucoup plus simple à comprendre et c'était vraiment beaucoup d'action, tu vois. Bref, voilà pour Ali Wing, c'est un scénariste que personnellement j'aime énormément et je suivrai encore pour les années à venir sans aucun problème. Et de l'autre côté, on a Javier Rodriguez dont on avait déjà parlé, comme j'avais dit tout à l'heure sur le podcast sur le run de Mark Waid sur Daredevil. Donc Javier Rodriguez, c'est quelqu'un qui, alors j'ai un doute là-dessus, mais je crois que c'était une anecdote qu'on avait partagée lors de ce podcast-là, quelqu'un qui s'était fait repérer sur un festival, mais je ne sais plus par qui. Et donc Javier Rodriguez commence d'abord en tant que coloriste.
C'est pas Neil Adams, il y a toujours un Neil Adams quand on parle d'un... Non, mais je rigole.
C'est très probable. Et donc voilà, au début des années 2000, Javier Rodriguez commence chez DC en tant que coloriste et va rapidement se faire connaître aussi, mais vraiment après cette série, parce que les couleurs de Batgirl Year One sont vraiment magnifiques. Et donc ça, c'est très important, Javier Rodriguez est d'abord un coloriste. Il va travailler sur Fallen Angel avec Peter David chez DC, il va travailler sur Human Target avec Peter Milligan si je dis pas de bêtises, il va travailler très rapidement, 2-3 ans après avoir commencé les comics, avec Brian Kevogan sur Doctor Strange Zeos, donc il va rester coloriste de Marcos Martin, et il va travailler sur beaucoup de séries en tant que coloriste, jusqu'à un moment où il va devenir dessinateur. Et on va le voir du coup sur le Daredevil de Mark Waid, on va le voir ensuite sur le Spider-Woman de... c'était qui? C'était pas Jodie Hauser, c'était... Oui, non, Danny Hopeless, c'est ça, Danny Hopeless. Et le moment où Spider-Woman est enceinte et qu'en fait, malgré sa situation, elle va quand même devoir se battre et accoucher dans un vaisseau Skrull.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelais plus de cette série.
Alors, ça passe ou ça casse cette série, mais moi j'ai bien aimé. Mais c'était bien délirant.
Elle était pas mal, mais ça a pas duré très longtemps. Hein. C'est ça qui était un peu dommage. Ce qui est, elle était, mais je pense que de toute façon pour moi c'était la meilleure série qu'on ait eue de ce personnage en fait.
Alors non, je suis pas méchant, mais là-dessus, la première série de Spider-Woman a beaucoup de hauts et de bas. Mais des hauts très intéressants. Bref,
alors plus tard. Je sais pas ce qu'elle met en bas, mais bref.
Non mais
flag de bof, bonjour.
Ça y est. Donc, Javier Rodriguez va pas non plus être un nom qui va pouvoir porter des séries, même s'il y aura quand même certaines tentatives, comme avec Exilé, que Marvel va tenter de relancer en 2018, avec notamment la première apparition de Captain Carter, où Javier Rodriguez sera dessinateur principal sur tout le long de la série, qui va durer 9 numéros. Et là, c'est un peu la douche froide. Mais l'année suivante, Javier Rodriguez va travailler sur History of the Marvel Universe avec Mark Waid. Et là, il va totalement se révéler en tant que dessinateur. Et là, il va repenser sa manière de raconter une histoire qui va plutôt être dans une sorte de narration mi-illustration, mi-narration classique. Et en fait, il va vraiment déstructurer la planche pour faire des compositions très originales et qui ont du sens. Et c'est incroyable la créativité de ce mec quand tu lis History of the Marvel Universe, chose qui en soi est un projet qui n'est pas censé t'apprendre grand chose, juste être un rappel, mais la véritable qualité de ce titre, c'est la capacité de Mark Waid à synthétiser une histoire aussi vaste, un univers aussi varié, et en même temps la mise en page qui est vraiment incroyable. Là où Georges Pérez adoptait un exercice un petit peu plus d'illustrateur, Javier Rodriguez va injecter un peu plus de narration dans cette qualité d'illustrateur. Ça, c'était excellent. Et par la suite, il va, je crois, participer à certains numéros d'Immortal Hulk et réaliser ces deux séries de Defenders dont on va parler aujourd'hui. Depuis, il ne travaille pas sur grand chose. En fait, il va beaucoup travailler sur des mini-séries, mais absolument pas, mais des variantes cover, ou alors vraiment des travaux très 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 courts. Donc pour ça, Javier Rodriguez, c'est un artiste qui, on va dire, ne travaille plus beaucoup sur des séries régulières, qui calcule beaucoup ses projets. Et là, j'ai l'impression qu'entre History of the Marvel Universe et Defenders, eh bien en fait, Javier Rodriguez a trouvé un petit peu son éditeur et ses auteurs avec lesquels collaborer pour proposer ses travaux. Et je trouve que c'est excellent, parce que entre Mark Waid et Ali Wing, là il a déjà jonglé avec les deux architectes des univers des Big Two, et ça, c'est excellent. Alors, on va arriver là sur Defenders. Defenders, c'est quoi? C'est pas la série Marvel avec Iron Fist, Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones, non. À l'origine, Defenders, c'est un concept complètement barge que Ali Wing va évidemment rappeler avec beaucoup de naturel, et j'ai beaucoup aimé sa manière de faire. Les Defenders,
Ouais. J'arrive pas à croire que tu t'es commencé en nous rappelant l'horreur de cette série télé. Mais c'est pas grave. Vas-y, continue.
Non, mais vraiment, il y a pas très longtemps, quand j'ai parlé justement de Defenders à quelqu'un, il m'a dit moi j'ai lu un seul comics, c'est avec Daredevil et Luke Cage. Et je fais non, c'est pas ça du tout. Et c'est vrai qu'en fait, Defenders, là, sur les années 2010, ça n'a été que ça. Et même avant, c'était Doctor Strange, Iron Fist et je sais plus qui. Mais on va dire, l'équipe,
oui, l'ADN,
a totalement changé. Faut dire que dans l'ADN, Defenders n'est pas une équipe stable. À l'origine, on avait évidemment les personnages qu'on va retrouver ici. On va retrouver, pas tout à fait du coup. Doctor Strange, Silver Surfer, Hulk et Namor. Voilà.
Ouais. C'était c'était une équipe qui faisait un peu antagoniste Avengers, parce que finalement c'était que des personnages qui étaient vraiment un peu spécial dans leur genre. Déjà Hulk, bon, c'est un ancien Avengers, mais beaucoup plus un personnage où il a eu plusieurs déboires au sein des Avengers. Namor, bonjour Vegeta de la mer. J'aime bien rappeler. Alors pas que pour la coupe, hein, même si je sais que des gens qui ont un début de calvitie, ils aiment bien se représenter être Namor ou Vegeta, mais disons, voilà, c'était des personnages qui ont une plus forte personnalité, et de base, par leur personnalité, ça ne m'étonne pas que, de toute façon, on les voyait pas autant que ça ensemble, quoi. Mais bon, bref. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que les personnages en tant que tels, par leur origine, ça me paraît évident qu'ils ne restent pas ensemble aussi bien que des Avengers, quoi.
Alors, c'est clair. Mais justement, c'est que là, leur collaboration, elle repose sur une sorte de sort magique à l'origine qui les force à se réunir pour faire face à des menaces qui mettent la Terre en danger. Donc, c'est-à-dire que le sort de la Terre repose entre les mains d'une équipe qui n'arrive pas véritablement à collaborer, que tout oppose. Et c'est ça qui est intéressant. Hulk et Silver Surfer, dont la seule interaction avant les Defenders, ça a été un affrontement et une incompréhension du rôle que jouent l'un et l'autre dans Tales of Astonish, qui était un très très bon numéro dont j'ai de très très bons souvenirs. Par la suite, l'équipe va quand même changer. Elle va connaître des hauts et des bas très profonds, et parfois le roster va changer. Je pense à ce qu'avait fait JM DeMatteis, si je dis pas de bêtises. Il y avait Valkyrie, il y avait encore Hulk, et il y avait le Fauve, et je sais plus qui d'autre. Mais on a des périodes comme ça qui sont très étranges aussi, mais qui ont une qualité assez bonne. Alors je dis assez bonne parce que c'est pas une période que j'ai lue, donc c'est pour ça que je connais pas forcément l'identité et je peux pas attester. Mais je sais que c'est des runs qui sont réputés pour la série Defenders. On a également les Secret Defenders, etc. Bref, les Defenders, c'est une équipe qui a pas mal bougé, mais qui est normalement à l'origine scellée par un sort et dont la collaboration est essentielle.
Il n'y a pas de Defenders de la côte Est, je
précise. Non, 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 justement, le succès n'a pas été suffisamment au rendez-vous pour ça. Il y a eu des périodes où Defenders a été considéré comme le pire comics Marvel de certaines périodes. Rôle qu'il partageait avec les Avengers de la côte Ouest à une certaine période aussi.
D'accord.
Ah oui, non, mais les deux titres ont eu des périodes nanardesques vraiment cosmiques. C'était incroyable et je vous jure, c'est un plaisir à lire, quoi.
Quand t'as le surnom de supplément à Avengers, c'est sûr que du coup tu sais pas trop à quoi t'attendre dessus, quoi. Tu sais que de toute façon, s'ils veulent mettre de la qualité, c'est pas d'abord cette série-là qui va être desservie, quoi.
C'est clair. Donc voilà, pour le pitch Defenders ici, eh bien en fait, on va retrouver essentiellement Doctor Strange qui va se retrouver dans son manoir et interrompu par un étrange personnage avec un masque qui est en réalité un artefact cosmique qui va le prévenir plus ou moins d'un danger, et en fait le Doctor Strange va être ce leader de l'équipe qui va invoquer, et il va littéralement invoquer chaque personnage, le Silver Surfer et la Harpie, j'ai plus le nom en VO alors que je l'ai lu en VO, qui est ce personnage
c'est pas Betty.
Oui, c'est Betty, oui.
C'est la...
Mais justement, voilà, son nom de créature de monstrueuse, je sais plus si c'est la Harpie ou Red Harpie, un truc comme ça. Bref, et donc cette équipe va être forcée de collaborer contre une menace cosmique précise. À savoir que ce titre va invoquer d'autres personnages par la suite, qui sont, je crois, je devais vérifier ça, mais je crois qu'on a des personnages qui sont créés pour l'occasion.
Alors, j'ai plus le nom, mais oui, effectivement, enfin, de toute façon, un personnage qui va être aussi dans la deuxième série, c'est l'espèce de Valkyrie aussi qui sera présente. Par contre, il y a des personnages qui existaient, mais qu'on a complètement zappé, genre par exemple le Nuage. Le Nuage qui était de mémoire, c'est une X-Men qui est même sortie avec, comment il s'appelle, avec Iceberg à l'époque. Et alors j'ai plus tout le truc en tête, parce que c'est un truc obscur que j'avais lu à l'époque, c'est que grosso modo ils sortaient ensemble, et qu'au final, c'était pas vraiment une X-Men, je crois qu'elle vient de... c'est une extraterrestre, et en fait c'était un homme, mais du coup qui avait pris l'apparence d'une femme, et du coup en fait c'est pour ça que leur relation s'est arrêtée. Bref, j'ai plus tout, bordel, je sais juste qu'elle est présente dans la série, et enfin elle est présente dans la série sans l'être vraiment, vu qu'elle va très vite disparaître, quand on va revoir peut-être à la fin de la deuxième, mais bon bref. Du coup, t'avais parlé de qui? Tu m'avais parlé de Doctor Strange, tu m'as parlé de Silver Surfer, tu m'as parlé de la Harpie, et alors du coup
Masked Rider.
Oui, voilà, Masked Rider. Alors du coup le Masked Rider qui du coup bon, on va voir avec l'introduction production avec ce très bon Marvel 1000, un 1000 inventé pour l'occasion, parce qu'il n'y a jamais eu de série Marvel, ou pas que je sache. Et du coup, effectivement, alors le personnage qui va être créé pendant la série, qui est, de toute façon, qui va être créé pendant la série, j'ai plus son nom, par contre, je suis désolé.
C'est Taya.
Taya, oui, voilà, c'est ça, oui, qui est, une guerrière badass à épée, bref, voilà. Mais du coup, oui, le nuage a vraiment existé, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé d'avoir vu ce personnage, mais parce que c'est un personnage qui apparaît qu'au début et à la fin, au début de la première série, à la fin de la deuxième.
Alors, Defenders, c'était un titre que, un peu comme Formiversaire, j'avais un peu peur de vous imposer ou quoi que ce soit, parce que, j'avais un peu peur que, j'avais pas lu la deuxième série, la première, je crois que je l'avais fini, mais je me souvenais plus très bien, et en fait, je sais pourquoi je me souvenais plus forcément très très bien de tout ça, c'est que, ça part vraiment dans tous les sens, voilà. C'est clairement le bordel. Et, en le relisant là, je me suis dit, là, pour le coup, on est clairement sur une série où Ali Wing, il se fait plaisir et il te balance des éléments complètement obscurs. Il te tartine de toute sa culture de l'univers Marvel. Et honnêtement, tu apprends des tas de choses quand tu prends la peine de faire quelques recherches sur certains personnages. Par exemple, Cloud et Carlos Ota, par exemple. Bref. On a des tas de choses comme ça. Le Masked Rider, moi perso, je savais même pas qu'il y en avait plusieurs. Donc ça m'a.
Mais c'était le spoil de Marvel 1000 où il disait qu'il ramenait un personnage obscur qui existait à l'époque. C'est un personnage qui avait vraiment existé, mais c'est juste que on n'a eu rien à foutre et qu'il a disparu depuis des dizaines et des dizaines d'années, je crois.
Alors, c'est pas des dizaines d'années, c'est clairement plus d'un demi-siècle, donc oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, mais c'était pas un personnage qui apparaissait dans les Timely Comics, c'est ça?
Alors, dans les premiers Timely Comics qui s'appelaient Marvel Comics.
Ah, ok, et du coup, c'est pour ça que c'est le millième. Non, pas du tout.
Alors, en fait, ils ont fait le millième. Non, alors vraiment, il y a un lien, c'est que le millième, c'est s'ils avaient continué les Marvel Mystery Comics, ça aurait été le millième.
Oui, et puis il y a eu aussi le 1001, d'ailleurs, pour l'anecdote.
Alors, à savoir que justement, ce Masked Rider, qui est ici considéré comme étant le troisième, eh bien, en fait, il ne va apparaître que dans cette série-là, et il va faire une apparition dans les Iron Man de Cantwell, mais vraiment en caméo, quoi. Donc, il y aura rien d'autre, du moins depuis là, 2021, sur le Masked Rider. Donc, une création nouvelle de Ali Wing basée sur des vieux personnages. Donc là-dessus, ça va être un puits de culture, et là que j'en ai profité aussi pour lire la seconde série, je vois qu'il va également encore plus loin dans le second volume, à une nouvelle échelle, et j'ai trouvé ça passionnant, et j'aimerais bien savoir ce que vous avez pu en penser de votre côté, Nightwing par exemple.
Alors, c'est ça le truc, c'est que j'ai adoré, mais j'ai été super frustré. Parce que, surtout, comme tu l'as dit, la deuxième série. La première série, j'ai trouvé ça génial. Alors, je savais qu'un personnage revenait, parce que, comme tu l'as dit, c'était un truc que Marvel avait vendu à une période. Je savais que, donc, on retrouvait ce personnage dans ce titre-là. Et je trouve qu'il fonctionne super bien, en vrai. Il est super charismatique dès qu'il entre dans l'histoire. Et après, par contre, je trouve que le plot n'est que prétexte à ce que fait Ali Wing la présentation du cosmique, en fait. C'est un gars qui voulait faire du cosmique et il a trouvé un peu un truc scénaristique bateau pour se faire plaisir. Ça se ressent de fou dans la première partie. Mais dans la deuxième, alors ouais, il part totalement en roue libre. Et c'est là où moi, ça m'a super frustré, même si j'ai beaucoup aimé. C'est que j'ai vu des trucs, toutes les deux pages, où je me dis, ok, donc ça, c'est un truc, clairement, ça existe, et il fallait que j'ai la ref, ou là, je ne l'ai pas, et du coup, il faut que je fasse une recherche. Sauf que j'ai pas eu le temps de faire la recherche à chaque fois, et du coup, j'ai l'impression de passer à côté de plein de trucs qui me permettrait encore plus de savourer l'histoire. Parce que, pareil, le côté méta de... Enfin, je trouve très appuyé dans la deuxième partie. Je trouve qu'il marche moins sur moi à cause de ça. Je sais pas si c'est justifié ou non, mais je trouve que ça m'a un peu sorti de cet aspect-là, parce que bah, j'avais cette frustration de passer à côté de trop de choses. Et paradoxalement, c'est un titre qui te redonne l'envie de lire du cosmique. Et bizarrement, le cosmique, moi, que je lisais chez Marvel, c'était du Starling. Et on est sur un cosmique radicalement différent. Et c'est ça qui est tout aussi appréciable avec, avec Defenders. C'est que, bah, si vous aimez pas le cosmique, ça peut vous plaire quand même. Parce que c'est pas le cosmique qu'on a l'habitude de voir très souvent. Enfin, pour ma part, c'est le ressenti que j'ai eu.
Ah, mais, enfin, pour moi, il n'y a pas du tout de cosmique. C'est plus du, c'est plus de la, alors c'est bizarre, pour moi c'est plus de la magie, j'ai envie de dire, plutôt que du cosmique, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à des, bon, on est face à des concepts effectivement cosmiques, je veux bien, mais en fait tu vois pas l'espace, en fait tu vois pas l'espace, ils vont pas dans l'espace, ils vont plus dans des concepts à chaque fois, en fait, surtout la deuxième série, la première série éventuellement, c'est très, enfin, si on devait vous faire un résumé de l'histoire, ce serait incompréhensible, et moi-même, je pense qu'à la moitié des trucs, j'ai rien compris. La seule chose que je peux mettre en avant sur cette série, c'est qu'elle est très inventive, en termes de présentation des pages. Pour moi, là, c'est plus un travail de Javier Rodriguez. C'est vraiment Javier Rodriguez qui montre, regarder ce que je peux faire avec de la BD. Et surtout, alors, je trouve que les planches sont magnifiques sur la première série, elles le sont un peu moins sur la deuxième, mais la deuxième a la particularité de jouer beaucoup plus. Alors, du coup, c'est vrai que t'as présenté la première, tu veux peut-être qu'on fasse que sur la première, ou je peux parler de la deuxième?
Ah non, on peut parler des deux, hein, bien sûr. C'est juste que j'ai présenté le concept de la première, ouais, parce que c'est là où, évidemment, t'as l'origine de tout, mais après, la deuxième, elle y fait à la fois suite, en présentant une nouvelle intrigue avec de nouvelles, une nouvelle équipe.
Oui, voilà, parce que il y a ce côté sur les concepts, et en fait sur la deuxième série, ça va autant sur la première. Javier Rodriguez s'amuse avec les planches, à faire des planches ultra colorées, ultra magnifiques à regarder, avec son trait qui pourtant de base, en fait, je me dis, ben, il fait pas des si beaux visages, en fait, mais il est capable. Et mais par contre, au niveau des compositions des planches, au niveau des idées de comment représenter tel ou tel truc, il est génial. Et sur la deuxième série, il y a moins ce côté-là. Par contre, il y a plus le côté jouer avec la narration, et de façon, il va carrément jouer avec la narration, où en fait,
alors.
Là, du coup, en fait, le problème, c'est que la narration fait partie de l'histoire, donc je peux pas juste en parler sans qu'on présente la série. Donc c'est pour ça que là, je m'arrête là-dessus, on y reviendra. Mais pour dire que voilà, pour moi, le travail, et on y reviendra sur la deuxième série, le travail principal de cette série se fait via le découpage de Javier Rodriguez. Et encore plus sur la deuxième série. Ouais.
Non, mais de toute façon, là, c'est un seul et même volume en VF. Hein, on peut parler de l'un et de l'autre en même temps. Je te rejoins sur l'idée que je trouve que sur la première série, il est beaucoup plus inventif sur la mise en page. Tu sens qu'il ressort tout juste de History of the Marvel Universe. Mais je trouve que sur la deuxième, au départ, j'étais déçu sur le début, parce que tu sens que la couleur, elle est gérée de manière très différente. Donc, même si c'est le même dessinateur, vous allez voir qu'il y a une sorte de rupture entre le dernier épisode de la première série et le premier épisode de la seconde série. Et vous dites, mais ça m'a l'air moins bien. Et en fait, c'est juste qu'il va y avoir un véritable jeu de colorisation sur la deuxième série que j'ai trouvé incroyable. Et en fait, les deux séries sont finalement très différentes dans la manière dont Javier Rodriguez va travailler à la fois la mise en page, la couleur, le dessin de manière générale. Et j'ai trouvé que c'était différent, mais pas mauvais pour autant. C'est vrai que si t'attends de toute façon de Javier Rodriguez une sorte de réinvention totale de la narration, avec mais cette page du Doctor Strange qui prend son café et la fumée qui te raconte toute l'histoire du Masked Rider, cette
page... J'ai cru que tu me parlais du truc que je voulais introduire avant moi d'autre. Parce qu'il y a une planche où... en fait, on a fait la même remarque avant le podcast. Du coup, je te coupe. Hein, mais,
vas-y.
En fait, il y a une planche de Doctor Strange qui est étalée sur son divan avec les pieds en grand plan sur la planche. Et tu te dis, bon, ok, est-ce que t'as besoin de me mettre... En plus, il est pieds nus, tu vois. Tu dis, bon, est-ce que t'as besoin de me mettre ses pieds en gros plan? Et en fait, après, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est pas un nouveau... comment il s'appelle
Tarantino.
Un nouveau Tarantino et tout. Et en fait, je me pose des questions parce qu'il y a plein de planches où il met en gros plan des plans depuis les pieds, la plante des pieds des personnages.
Ouais.
Et sur la deuxième série, c'est encore pire, c'est Loki se balade en permanence pieds nus, dans sa forme féminine, on va dire. Même si, bon, voilà, c'est assez particulier parce que c'est une femme féminine avec du poids sur le menton. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais du coup, il y a tout le temps les pieds à l'air. Et pareil, sur les plans, tu te dis, mais attends, mais t'as un kink avec les pieds ou quoi, Ravi Rodriguez? C'est pas possible.
Bon, ça me
bon après, voilà, c'est quelques planches, hein, je vous rassure, c'est pas ça qui va... C'est vraiment parce qu'il faut, si on se met à être pointillé là-dessus, on le voit, mais bon... Mais du coup, bon, voilà, et du coup, pardon, je t'ai coupé, c'était quoi la planche? C'est la planche avec l'histoire? Oui, non mais oui, bah, l'histoire...
Avec l'histoire,
oui.
Du Masked Rider, ouais, sur le tout premier numéro de la première série, où je trouve que cet effet de fumée, donc où tu distingues parfaitement les formes, mais tu ne perds absolument pas la notion ni la texture de la fumée, j'ai trouvé ça super. Et il y avait plein d'autres choses dans le même style, hein, mais je crois que ça a été la première claque que la série m'a mis, et ça m'a bien marqué parce que justement c'était sans doute la première, mais c'était vraiment très 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 fun. Et pour moi là, c'est une série vraiment on a la chance d'avoir pour une fois la chance en français d'avoir du hardcover sur une série qui en VO finalement n'est pas si bien édité que ça. Là on a que des TPB souples pour les deux, du coup en format régulier. Là-dessus, je pense que je risque de me prendre le Deluxe en VF.
Ah oui, oui, mais en plus, c'est... le problème, c'est que je l'ai vu en français, et j'ai l'impression que les couleurs sont moins pétantes que la version... parce que du coup, je l'ai lu sur le net, hein, avant de... Je la prendrai, promis, en VF, elle est vraiment jolie. Mais les couleurs sont moins pétantes, et en fait, t'en as un qui est coloriste, qui en parlait, c'est le problème, en fait, quand on fait la couleur, en fait, sur une tablette... Le souci, c'est qu'en fait, il y a des nuances de couleurs qu'on ne peut pas avoir sur le papier. Donc en fait, t'en as qui font des très belles couleurs, c'est bien sur leur tablette, mais il faut penser au format papier et sur quel type de papier tu vas être édité, sinon. Mais en fait, tu caches juste la couleur, tu peux pas avoir certaines teintes en fait sur du papier en fait. Et je me demande si on n'en est pas là en fait, parce que c'est vraiment très très joli en fait. Comme ça, je sais que c'était pas mal aussi sur le tome, mais j'ai l'impression que c'était moins pétant. Et en fait, Javier Rodriguez, c'est des couleurs mais putain de pétantes, hein. C'est limite si je te fais bouger, trembler la planche, que je vais pas me taper une crise d'épilepsie tellement il y a de la couleur, quoi. mais du coup, ce que je voulais revenir du coup sur la deuxième série, c'est que du coup, pour parler, en fait, la deuxième série a aussi tout un côté cosmico-magico, conceptuel plutôt. On va dire plutôt, on est plus face à des menaces conceptuelles. Le concept est vraiment le scénar, la narration. Et vraiment, véritablement, l'ennemi, c'est la narration. Il y a un truc avec la narration dans la deuxième série. Et où Loki justement se bat contre ça. Et du coup, c'est l'histoire de jouer avec les planches pour faire des espèces de découpages avec aussi, par exemple, des scènes où en fait t'as un personnage qui est dans une case et en fait t'en as un autre qui enrobe la case et qui essaie d'écraser la case avec ses bras. Et là, tu sens qu'il va se faire écraser parce qu'il est bloqué dans cette case-là. Ou alors plusieurs fois des personnages qui vont carrément sortir de la planche. Pour changer, de passer d'un espèce d'univers conceptuel à un autre, mais directement en sortant de la planche, on voit la planche figée qui voilà. Et en fait, tout est idée à jouer avec la narration, jouer même des fois avec les codes purement du comics. Donc par exemple, les espèces de petites vignettes que vous avez sur les couvertures. Ça vous connaissez plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait des espèces de petites vignettes en haut à gauche des couvertures chez Marvel, où on remettait un peu le personnage principal dessus avec la numérotation. Et en fait, il va jouer aussi là-dessus, à un moment, sur une des planches. Il va jouer avec tout un truc avec des papiers à droite à gauche. Il va jouer avec plein de petites idées. Et ça, moi, vous savez, tout ce qui est concept de découpage, c'est quelque chose, vous êtes sûr que ça me plaît. Donc là, pour le coup, ce deuxième numéro, même si sur la partie graphique, au niveau des planches impactantes, je pense que la première série est meilleure. Par contre, au niveau des idées de narration, la deuxième est vraiment meilleure.
Mmh. Voilà. Mais tu vois qu'ils mettent l'accent sur une qualité précise. Et j'irais même, tu vois, j'ai parlé de The Ultimate là pour présenter Alley Wing. Et en fait, en lisant la deuxième série qui est Defenders Beyond, la présence de Blue Marvel, elle est pas anodine. Et en fait, quand tu vois également qui est Taya et un certain délire autour d'une entité cosmique que Alley Wing a l'air de vraiment beaucoup apprécier, et ça gravite souvent autour de lui, j'ai l'impression que cette histoire de Defenders, le fil rouge qui les guide, t'as l'impression que c'est la suite en soi, une sorte de troisième volume à The Ultimate, et que Ewing, en fait, ne veut absolument pas lâcher, il veut limite aller encore plus loin dans sa quête d'exploration d'entités cosmiques et de nouvelles histoires à raconter, et je trouve que il renouvelle totalement ces histoires, et que ce sont vraiment des récits que j'ai pas eu l'impression d'avoir pu déjà lire quelque part. À la rigueur, ça lorgne un petit peu du côté de ce que faisait Mark Waid sur The Brave and the Bold avec George Perez en 2008. Mais c'est un truc pas très connu qui n'allait pas très loin non plus dans l'aspect méta, là où Alley Wing s'en donne à cœur joie et n'hésite pas à faire de lourdes références à des choses un peu perdues. Mais du coup, question, est-ce que, par exemple, pour toi, Nightwing, qui disait que T'as eu l'impression d'être passé à côté parce que t'as pas eu le temps de faire certaines recherches auprès de certains personnages que tu connaissais pas forcément. Est-ce que ça t'a empêché de comprendre l'histoire ou de l'apprécier?
Comprendre l'histoire et l'apprécier, clairement pas. Clairement pas. Mais je suis un psychopathe de ce genre de truc. Tu vois, c'est comme, chez DC, ça va être peut-être un peu plus marqué parce qu'on a des gars comme Morrison qui ont un peu taffé autour de la question, mais j'ai besoin de un peu tout comprendre sur la continuité, tout comprendre sur et tout savoir. J'ai envie de tout savoir. Donc quand je me tombe sur un truc où j'ai plein d'éléments qui me font sentir que je passe à côté d'un truc, ça me frustre, ça m'énerve. Et là j'avais un petit peu ça sur ce titre, surtout la deuxième mini-série. Par rapport à l'histoire en elle-même, non. Ça te sort pas de l'histoire n'est pas incompréhensible à cause de ça, mais c'est dommage parce que tu dis j'ai l'impression que j'aurais pu encore plus apprécier ça parce que je me dis si j'avais compris à quoi il faisait référence ou à quel peut-être que j'aurais un peu plus ça aurait été plus satisfaisant.
Ouais, je vois. Bon, en tout cas je suis bien content qu'on ait pu parler de cette série là surtout de The Defenders. Ouais.
Moi, dans tous les cas, en fait, j'avais zappé cette série parce que je me disais, ouais, c'est la série qui teasait dans le Marvel 1000. Et en fait, le Marvel 1000, je l'avais lu. Je crois que c'était dans cette série où il y avait un teaser aux Avengers 10 000 ans avant Jésus-Christ, je crois.
De Jason Aaron, ouais.
Ouais, qui était. Je crois que c'était le seul truc qui intriguait. Bon, il s'est avéré bien évidemment que Jason Aaron n'est pas un très bon scénariste pour Avengers. Bref, alors est-ce que c'est de sa faute ou pas, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais du coup, j'avais pas envie de lire cette série-là. Donc, je m'étais ravisé. En plus, Javier Rodriguez, à l'époque, je connaissais pas plus que ça. Enfin, à peine, on va dire, plutôt, pardon. Et Alley Wing, je crois que j'étais encore, moi j'avais lu les Immortal Hulk en VF, et du coup, au moment où ça s'est arrêté en VF, il avait déjà fini ces séries, donc j'étais passé à côté aussi. Mais du coup, effectivement, je regrette. Par contre, c'est vrai que il faut savoir que les deux séries sont liées parce que, à part s'appeler Avengers 1 et l'autre c'est Avengers Beyond, tu peux pas savoir. En fait. Ah oui, pardon, Defenders 1 et Defenders Beyond.
Ouais, mais tu vois, je sais très bien que c'est un problème, et même moi, tu vois, quand j'avais vu Defenders Beyond, je me suis dit, oh, cette idée de merde de faire des Defenders du futur, etc., alors que pas du tout. J'ai regardé les crédits, je me dis, oh merde, c'est Alley Wing et Javier Rodriguez, et en fait, le fait que ça n'est pas le même titre, ça ne soit pas une sorte de continuité de la, dans la numérotation, que tu reviennes au numéro 1 et qu'en plus de ça l'équipe soit modifiée, ah bah oui, ça t'induit en erreur complètement. Faut vraiment prêter attention à tout ça, et pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Panini de proposer une sorte de deluxe qui compile les deux mini-séries. Je sais pas d'où leur est venue l'idée, peut-être que ils se sont dit que ça avait bien marché en France et que ça pouvait mériter une réédition, et franchement si c'est ça, tant mieux, parce que ça serait bien que en VO, en tout cas parce que je collectionne en VO du coup, ils puissent le faire, quoi, parce que je m'attendais plutôt à ce genre d'initiative de la part de Marvel Comics plutôt que de Panini Comics, et pour ça bravo Panini.
Mais en fait c'est parce que il y a eu le comment dire, le History of Marvel Universe. Et j'avoue, ouais, que je l'avais lu, j'avais trouvé ça, c'était joli, mais c'était un peu barbant dans la manière de présenter les choses, sachant qu'en plus, ouais, il y avait plein de facilités, on va dire, ou plutôt de raccourcis qui avaient le mérite de perdre le lecteur, en fait, je trouve. Et le truc, c'est que je sais pas si ça a vraiment bien marché, parce qu'il y avait eu même un grand format. Je
me dis le Treasure Edition, ouais.
Ouais, voilà, et si, ouais, le Treasure Edition, et si, bon, alors, en France, on l'a pas eu, hein, on l'a eu, je crois, on l'a si, même si. Pas eu en Deluxe, on l'a eu en, ah, il était en grand format, non, enfin, on l'a eu, mais je veux dire, on l'a pas eu en Treasure Edition, on l'a pas eu en grand format.
Je crois que si.
T'es sûr? Bon, non, pour moi, pour moi, il est sorti qu'en Marvel Now. Il est même pas sorti, okay, en Deluxe, de mémoire. Il est sorti qu'en Marvel, okay, Now. Et je crois que ça m'avait, je sais, parce que je crois que ça m'avait étonné à l'époque. Et le truc, c'est que, alors, en France, ils ont dû réitérer avec le Marvel Deluxe, tant mieux, mais c'est vrai qu'en VO, par contre, je ne sais pas si ça a si bien marché, et c'est peut-être pour ça que ça n'ait pas été aussi bien mis par la suite, alors que, au final, c'est, alors, je crois que le History, il y avait que Ravier dessus, il n'y avait pas Ali Wing. Si je dis pas de bêtises, attends, je l'ai plus en tête.
J'étais en train de vérifier surtout là pour l'édition, et non, je crois que t'as raison, c'était qu'en 100% en France. Autant pour moi.
Oui, voilà, c'était les Marvel Now. C'est grosso modo, c'est plus. Oui. C'est un tome qui. Si vous voyez pas les gens, c'est un tome qui classique. Est plus petit que le. Oui, voilà, c'est, ouais, plus petit qu'un Deluxe.
Ok, ok. Donc dans ce cas-là, justement, bah, très content d'avoir pu présenter Ali Wing, reparler à nouveau de Javier Rodriguez, parce que pareil, c'est un artiste que je trouve vraiment passionnant et excellent, et j'espère pouvoir le voir sur plein d'autres projets un peu plus variés que chez Marvel, même si ce qu'il fait actuellement est vraiment très très bon, comme on a pu le dire là. Donc voilà, grosse recommandation que ce Marvel Deluxe, ça sera une trentaine d'euros qui ne sera, je trouve, absolument pas perdu, qui vous fera bien voyager, découvrir des tas de choses dans l'univers Marvel, des choses bien obscures, et en même temps qui va vous emmener très 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 loin dans l'univers cosmique et même au-delà. Mais tout ça avec, on va dire, une sorte de proximité avec une équipe en petit nombre, et c'est également ce qui fait tout le charme de cette série. Donc voilà, j'ai perdu les crédits. j'ai fermé la page parce que ah oui, Javier Rodriguez au dessin, Ali Wing au scénario.
Ali Wing, Marvel Deluxe à 32€, qui est déjà sorti alors au moment où on écoute, je sais plus quand, mais normalement depuis déjà une semaine.
Eh bien voilà, donc il est déjà disponible, tant mieux. Donc voilà, profitez-en et profitez à fond de cette aventure qui est excellente. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, promis, pour un épisode qui sera consacré à une œuvre, on va dire, vraiment très underground dans la culture comics, un artiste
MTV, tout ça,
très MTV clairement, et qui pourtant a le mérite d'être porté par un artiste, on va dire, très singulier. On va parler de The Max, et j'espère que vous serez là, parce qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à expliquer. Voilà, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Salut.
À très vite.